magazine de l'environnement.
Aller au bout du monde pour comprendre le vivant, c'est l'obsession des nouveaux aventuriers. L'enfer quotidien des sans-papiers transformés en esclaves sur les bateaux de pêche en Thaïlande et l'urgence de se débarrasser des centaines de millions de débris spatiaux qui flottent au-dessus de nos têtes. Tous ces sujets sont à la une du Terra Eco du mois de septembre. Avec nous pour en parler, François Meurice, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes l'un des rédacteurs en chef du magazine qui change le monde au quotidien sur un internet et mensuellement en kiosque. Mais avant cela, nous allons revenir sur l'actualité la plus importante de l'été. Heureux papa du petit Victor qui est né le 7 juillet dernier. Vous êtes un tout jeune papa finalement.
Très très jeune, comme lui.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Ça va, vous n'avez pas les yeux trop fermés, tout ça, vous dormez bien? Question classique pour les jeunes parents.
On dort bien, oui, oui, ma compagne et moi, on dort bien. Il est très sympathique avec nous.
Alors vous avez beaucoup de chance. Il va peut-être devenir un aventurier d'ailleurs.
Qui sait, on lui souhaite.
Peut-être sera-t-il en une de Terra Eco dans 20 ans, 30 ans.
On souhaite aussi à Terra Eco. Oui,
oui, de durer absolument longtemps. Alors vous consacrez donc la une de Terra Eco ce mois-ci à ce que vous appelez les derniers aventuriers, botanistes ou glaciologues qui partent en bateau ou à pied pour inventorier le vivant. C'est le retour des grandes expéditions.
Exactement, on pourrait se dire que après le 19e siècle, voilà, ça faisait un peu justement 19e siècle, un peu la science d'avant, aller gratouiller sous les feuilles des arbres ou au fond des océans et ramener des petits échantillons dans des tubes à essai. Et en fait, il y a un regain de ce genre d'exploration, d'expédition, et ce n'est pas inintéressant du tout, même aujourd'hui à l'heure des satellites, à l'heure de Google Earth, etc. Ça a vraiment un intérêt scientifique.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, beaucoup de coins du monde qui malgré tout restent inexplorés. Alors, il y a de nombreuses expéditions lancées, par exemple, par le Muséum.
Oui, le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui a lancé, avec une ONG qui s'appelle ProNatura, toute une série d'explorations qui s'appelle Planète Revisitée. On en est à la sixième. Et donc, on va voir dans un coin du monde, on va recenser toutes les petites bestioles qu'on va pouvoir trouver par terre, sous les feuilles qu'on va gratter. Et on en trouve de nouvelles. Encore aujourd'hui, en 2015, on trouve des animaux, des espèces qu'on ne connaissait pas. Il y en a plusieurs centaines qui ont été répertoriées grâce à ces six expéditions Planète Revisitée.
Et ça, c'est une bonne nouvelle puisqu'on parle régulièrement de la sixième période d'extinction de la biodiversité. Donc, comme quoi, on retrouve encore de nouvelles espèces. Ça ne compense pas.
Non,
hein.
Non.
Malheureusement, ça va pas suffire pour nous redonner le moral, mais ça fait quand même du bien. Le CNRS aussi, le Centre National de la Recherche Scientifique Française, fait beaucoup d'expéditions.
Là, on s'est concentré sur une qui s'appelle le Raid des Sept Bornes. Et donc, c'est à la frontière entre la Guyane française et le Brésil, et ça peut paraître un peu surprenant, c'est une expédition donc montée effectivement par le CNRS et la Légion étrangère.
Donc ils ont l'expérience du terrain.
Exactement, voilà, ce sont des bons et des beaux gars, comme dit le colonel qui pilote cette opération, et donc ils vont ensemble, scientifiques, géographes et militaires, à la frontière du Brésil, en pleine Amazonie du Brésil et de la Guyane française. Quel est l'intérêt? Ben, tout simplement pour les géographes de repérer des traces éventuelles de présence amérindienne, et pour les militaires de tester du matériel, des chaussures notamment, et des soins pour les pieds. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique comme ça, les imaginer en train de tester des nouveaux pansements contre les ampoules, mais en fait c'est très très important parce que les militaires français en Guyane française, ils chassent les orpailleurs, on le sait, au milieu de la forêt toute la journée et toute l'année, et s'ils peuvent avoir les pieds en bon état, bien évidemment c'est mieux.
Et parmi les aventuriers, il y a ceux de la Goélette Tara, là on quitte un peu le domaine terrestre pour aller dans le domaine marin. Tara, qui après avoir fait le tour du monde pendant 3 ans et demi, mobilisé 230 chercheurs et collecté 35 000 échantillons de vie sous-marine, du virus au phytoplancton, hein, s'est lancé de mai à novembre 2014 dans la traque du plastique en Méditerranée. Et nous avons reçu justement il y a quelques semaines Romain Troublé, qui est le secrétaire général de Tara Expédition. Il nous livrait déjà quelques résultats.
Tara a parcouru la Méditerranée, a sillonné la Méditerranée, j'ai envie de dire, entre Gibraltar et le Liban, et entre l'Algérie et la France, Marseille notamment. Et on a parcouru comme ça 13 000 kilomètres et effectué une vingtaine d'escales dans 13 pays. Et on s'est attaché pendant tout ce temps passé en mer à faire des prélèvements de jour et de nuit de la surface de l'océan, On en a fait, je crois, près de 350 prélèvements. Et bien sûr aussi de faire des escales et de raconter cette histoire et de partager cette recherche et les questions qu'on se pose, avoir de Tara, les chercheurs du CNRS, mais aussi les gens de Tara. Le bateau fait 7 mois d'expédition, fait beaucoup d'escales, et en général, les marins restent 3-4 mois, les scientifiques restent entre 2 semaines et 1 mois. Il y a aussi des artistes qui sont relayés à bord du bateau, parce que l'art est une langue universelle, et que c'est formidable de parler aussi des problèmes par l'art aussi.
Alors donc, la Méditerranée, c'est 0,8% de la surface océanique mondiale, hein, c'est tout petit finalement, mais elle abrite quand même 8% de la biodiversité biologique marine, et c'est une mer, on le disait, quasi fermée, puisque l'eau met 90 ans à se renouveler. Alors, comment est-ce que vous avez procédé, Maria Luisa Predotti, pour comprendre l'ampleur de la pollution créée par les déchets plastiques? Vous avez utilisé un filet Manta, c'est ça? Expliquez-nous.
Alors, exactement. En effet, la Méditerranée est une des mers les plus polluées par les déchets marins du monde. Il y a eu très peu de recherches sur les microplastiques. En effet, les recherches d'avant ont été un peu cantonnées dans la mer Ligure et autour de la Sardaigne. Alors là, c'est la première expédition vraiment d'envergure au niveau de toute la distribution des microplastiques dans tous les bassins de la Méditerranée. Ça fait qu'on a utilisé un filet Manta. C'est un filet de surface qui on prélève les plastiques à une vitesse du bateau très lente. Et en effet, on a pu traquer ce filet dans toute la Méditerranée, proche des côtes, proche des grandes villes, dans les ports, pour voir un peu l'influence du milieu terrestre sur la distribution de ces microplastiques. Et on a aussi prélevé au large pour voir l'influence des courants dans la distribution des microplastiques. Mais vraiment, le résultat qui est pour nous vraiment étonnant, c'est que dans chaque trait de filet qu'on a monté sur le bateau, on a trouvé des microplastiques. Ce qui veut dire que dans toute la surface de la Méditerranée étudiée, nous avons trouvé ces petits fragments de plastique.
Je crois qu'il faut bien se rendre compte que ce filet dont parle Maria Luisa, il ne fait pas 200 mètres de large, il fait 1 mètre de large. Donc c'est vraiment une surface d'océan qu'on a mesurée très petite. Et à chaque fois, il y en a. C'est ça qui est édifiant, en fait. C'est que finalement, c'est assez ubiquitaire.
Par exemple, en face des grandes agglomérations, dont la ville de Nice, on a trouvé presque 600 000 plastiques, microplastiques par kilomètre carré. Et c'est les concentrations qui ont été trouvées dans ce qu'on appelle la grande poubelle dans l'hémisphère nord-pacifique, qui les concentrations, elles vont aussi jusqu'à 600 000 microplastiques par kilomètre carré. Mais alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est que dans cet endroit-là, par un effet de rotation de la Terre, il y a des vortex et les plastiques s'accumulent dans ces gyres, tandis qu'en Méditerranée, selon les physiciens, on n'a pas vraiment de structures permanentes, des structures physiques permanentes qui peuvent accumuler les plastiques. Ça veut dire que ces concentrations-là sont vraiment distribuées dans la mer. Moi, je pensais, franchement, quand on a vu nos résultats de 2013, qui, par exemple, au large, à certains endroits ou dans le bassin est, on n'allait pas trouver des microplastiques. Ça fait que pour nous, c'est vraiment impressionnant, parce que selon les études, des synthèses qui ont été faites dans tous les océans, en effet, 85% de la surface de l'océan est affectée par les microplastiques. Et on ne pensait pas trouver ça en Méditerranée.
Alors ça, c'est pour la Méditerranée, hein, François Meurice, mais une étude récente annonce aussi qu'a priori, la moitié des poissons dans le monde auraient ingurgité un bout de plastique. C'est quand même assez terrifiant.
C'est assez terrifiant, effectivement. Et comme le rappelle la chercheuse, effectivement, il y a toutes ces questions autour des courants, des vortex, les plastiques, le petit bout de plastique que l'on jette ou la bouteille qui se désagrège petit à petit, vraiment très lentement. Mais dans un coin de plage dans le monde, eh bien, on peut la retrouver à l'autre bout du monde, effectivement. Effectivement, c'est très très grave. Et sur la Méditerranée, pour revenir un tout petit peu dessus, on peut aussi signaler une autre expédition qui s'appelle l'expédition MED, qui s'occupe elle aussi des microplastiques et qui va d'été en été de côte méditerranéenne en côte méditerranéenne, qui s'occupe de tous les pays du bassin de la Méditerranée, qui font un travail remarquable.
Voilà, donc de nombreuses expéditions aujourd'hui en cours et actuellement, Tara, la goélette Tara, est en Arctique.
C'est pas du vent sur RFI.
Autre sujet à la une de Terra Eco, les esclaves de la mer en Thaïlande. Alors nous sommes justement en ligne avec Jean-Michel Clajot. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous donc qui signez en tant que photographe ce reportage. Vous avez fait plusieurs séjours dans la province de Samut Sakhon, c'est à une trentaine de kilomètres de Bangkok, et vous avez découvert la misère humaine qui se cache derrière l'industrie de la pêche en Thaïlande. Alors je rappelle que la Thaïlande est le troisième pays exportateur de produits de la mer derrière la Chine et la Norvège. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous avez découvert.
Ben oui, en fait, c'est un sujet que j'ai vu un peu par hasard. J'avais travaillé il y a une dizaine d'années déjà sur l'immigration en Europe avec les problèmes à Calais, les problèmes sur l'île de Tenerife, de tous les cayucos qui arrivaient, d'immigration. Donc c'est un sujet qui me parlait. Et puis quand j'ai découvert ce sujet un peu semblable, mais avec un travail forcé sur l'immigration, sur ces réfugiés qui viennent de Birmanie, évidemment, ça m'a interpellé. Et donc j'ai été voir et j'ai fait en tout 3 voyages là-bas sur ce sujet qui était quand même assez touchant et attachant à faire, je trouvais.
Alors, il y a des Laotiens, des Cambodgiens, des Birmans, essentiellement des Birmans, dites-vous, qui donc sont exploités. Alors, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu sur les bateaux et à terre.
C'est principalement, en effet, des Birmans. On peut les reconnaître, d'ailleurs, parce que, point de vue ethnie, ces gens sont exploités. C'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas, parce qu'avec la Birmanie, on connaît le problème politique et la junte militaire sur place. Donc, ils vont en Thaïlande pour essayer d'avoir une meilleure vie, mais ils n'ont pas de papier. Donc, ils sont pris en charge directement par un système de mafia, qui, là, ces gens vont se retrouver à être exploités, à travailler en haute mer pendant plusieurs mois, aller pêcher des crevettes ou du poisson. Et sur terre, toujours les mêmes Birmans, mais on va dire de la même famille, mais les femmes ou les enfants, eux, ils vont trier tout ça, les empaqueter, et puis ça va être envoyé dans le monde entier, parce que les États-Unis ou l'Europe profitent de ce système. C'est un peu... D'ailleurs, j'ai vu des grandes marques sur place, que je ne citerai pas, mais il y a des usines...
Non, mais
de
vous pouvez les citer.
Mais eux... Allez, on va dire que c'est réglementé, c'est-à-dire que tous ces gens ont leurs papiers, mais bon, voilà, ça coûte rien de le faire là-bas, évidemment. Mais ceux que j'ai fait en photo, ça c'est vraiment la base qui travaille à même le sol, sur des petits bacs en plastique, qui trient à longueur de journée ces crevettes géantes. Et non, c'est dramatique, ils sont payés quelques euros à peine par jour, et ils vivent les uns sur les autres, enfin c'est quand même c'est assez dramatique. Mais il y a pas mal d'ONG qui essayent de les aider, ou en tout cas d'avoir leur papier. Et le fait qu'ils n'aient pas leur papier font qu'ils sont encore plus exploités, que ce soit par cette mafia ou même par la police ou par l'entourage, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont vraiment exploités, mais à tous les niveaux.
Un phénomène que vous avez donc observé là-bas en Thaïlande, mais que l'on voit de plus en plus partout dans le monde.
Oui, c'est ça, cette exploitation, c'est un peu comme... vous avez ça à Dubaï, hein. J'ai été plusieurs fois à Dubaï pour d'autres sujets, et bon, c'est connu, hein, ces femmes de ménage des Philippines qui travaillent pour 2 francs 3 sous, qui n'ont pas de pouvoir non plus, qui ne sont rien, qui ne sont pas représentées, et c'est aussi une exploitation, c'est aussi un système d'esclavage moderne. Dès que de toute façon quelqu'un est faible, sans pouvoir ou sans pouvoir la capacité de pouvoir se défendre, de toute façon elle sera exploitée. On a même ça dans notre société, que ce soit ici à Bruxelles ou chez vous à Paris, on a ça de toute façon. C'est toujours un jeu de pouvoir, hein, de toute manière.
Alors quand on revient à la Thaïlande, vous dites finalement c'est la faute à la demande internationale gourmande de fruits de mer, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de s'acheter des fruits de mer les achètent et se demandent pas d'où ça vient, comment c'est pêché, comment c'est empaqueté, etc.
Voilà, comme pour tout, c'est la même chose pour les habits, c'est-à-dire que quand on se retrouve avec une boîte de scampi d'un kilo à 2,80 €, on ne se dit pas tiens, pourquoi ce prix ? Non, voilà, c'est simplement parce que ces gens sont mal payés, qu'il y a un vrai business derrière, qui font en plus de ça, si on veut aller au-delà de l'esclavage moderne là-bas, il y a la surpêche dans les mers où ils doivent aller de plus en plus loin, donc ils sont en train de vider la mer d'une manière énorme. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un ensemble comme ça qui se relie, toutes des petites étapes qui se relient les unes aux autres. Mais oui, bien sûr, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, ça ne nous intéresse pas de savoir comment c'est emballé. Et j'ai voulu, à un moment donné, d'ailleurs, je suis tombé sur une petite un endroit où ils empaquetaient, et j'ai voulu prendre les étiquettes en photo parce que c'était intéressant, c'était pour les États-Unis. Et bon, là, on m'en a empêché. J'ai pas pu le faire, malheureusement. Mais c'était intéressant. Et là, j'aurais bien été même aux États-Unis faire ces aliments dans les rayons et voir un peu, y continuer l'enquête, comme ce qui a déjà été fait pour le diamant. Mais voilà, oui, non, personne ne se pose la question.
Vos photos sont donc à découvrir dans le numéro de Terra Eco daté de septembre et sur votre site internet www.jmclajot.net. Merci beaucoup.
Je vous remercie à vous et à très bientôt, j'espère.
Mais oui, à très bientôt. François Meurice, ce reportage nous interpelle évidemment en tant que consommateur, bien entendu, mais aussi parce que le nombre de migrants cesse d'augmenter dans le monde, notamment en Europe, où les images les plus insoutenables circulent, surtout cette semaine.
Oui, effectivement, et comme le rappelait Jean-Michel Clajot, dès qu'on est en situation de précarité, de faiblesse, on est la proie de réseaux mafieux, on est la proie d'un travail non déclaré, effectivement. Donc c'est vraiment des choses qui sont dramatiques. Et cette semaine, effectivement, on voit bien que ça prend un petit peu médiatiquement, on va dire, avec des gros guillemets, la question des migrants. Mais ça fait des semaines, des mois, des années que ça dure et qu'il s'agit vraiment de faire quelque chose au-delà des critiques un petit peu faciles, on va dire, envers les migrants, bien sûr, mais même aussi les passeurs. Là, c'est peut-être un avis personnel, mais les passeurs, ils ne font évidemment pas quelque chose de bien, mais ce n'est pas la racine du problème.
Quelle est la racine du problème, selon vous? Parce que ça fait très longtemps que Terra Eco dénonce justement les discours médiatiques et politiques sur l'immigration.
Effectivement, on a fait plusieurs dossiers sur cette question. Il y a encore quelques mois, on a intitulé un dossier Histoire de migrants. Il y a la question tout simplement de la fermeture des frontières, des barrières, alors qu'elles soient administratives, qu'elles soient physiques. Parfois, on a même interviewé une politologue américaine qui a fait tout un livre sur les murs, sur cette folie de construire des murs aujourd'hui en 2015. C'est absolument absurde de construire des murs, que ça soit en Hongrie, que ça soit entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, donc effectivement, ouvrir les frontières. On s'est posé aussi la question économique, qu'est-ce que ça coûte d'accueillir, tout simplement, d'accueillir les gens qui migrent? Eh bien, l'exemple de l'Espagne notamment, mais aussi de la France, il y a quelques dizaines d'années, a prouvé que économiquement, ce n'était pas une hérésie de faire ce genre de choses. Voilà.
Donc en tout cas, avant de vous prononcer sur ces questions, renseignez-vous, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Sur RFI, nous sommes en compagnie de François Meurice, rédacteur en chef de Terra Eco. Heureusement, François, finalement, nous ne savons pas ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Oui, l'innocence a du bon.
L'innocence a du bon, en effet, parce qu'il y a des millions de débris spatiaux qui se baladent. Et nous sommes en ligne, justement, avec Fatoumata Kébé. Bonjour.
Bonjour.
Terra Eco dresse votre portrait ce mois-ci, tête chercheuse dans les étoiles, et vous travaillez justement sur le casse-tête du devenir et du nettoyage des débris spatiaux.
Exactement.
Alors, quel est l'enjeu finalement?
L'enjeu premier, c'est tout d'abord de préserver l'environnement spatial, donc le laisser aussi propre que lorsqu'on l'a trouvé il y a 60 ans. Et le problème des débris spatiaux, c'est qu'ils peuvent détruire des satellites, donc ces objets qui nous permettent d'avoir accès entre autres aux télécommunications. Et également, ces débris peuvent retomber sur Terre pour les plus gros.
Mais quels sont ces débris?
Alors les débris, donc en fait, c'est les vestiges de l'activité humaine dans l'espace. Il y a des satellites à la retraite, il y a également des morceaux de fusée, des écailles de peinture.
Et on parle de centaines de millions ?
centaines de millions, en sachant que la plupart sont très petits, de l'ordre du centimètre. Mais dans l'espace, ils ont des tailles très, très importantes. Ce qui fait que, par exemple, un débris qui a une taille d'un centimètre, il a une énergie comparable à celle d'une enclume sur Terre.
Et donc, quelles sont les solutions? Parce que la NASA explique carrément qu'à l'horizon 2025, on ne sera plus en mesure d'expédier quoi que ce soit sans risquer une collision si on continue comme ça. Et vous, vous travaillez sur des solutions potentielles, alors lesquelles?
Alors, solutions potentielles, il y en a plusieurs qui ont été proposées, mais aucune n'a pu être testée dans les conditions réelles, parce que ça coûte très très cher de mettre en place une mission spatiale. Moi, dans mon cas, je m'intéresse aux petits débris spatiaux et j'essaye de trouver une méthode pour les capturer avec une espèce de raquette. Et en fait, dans le cadre de mes travaux de recherche, là, je m'intéresse plutôt à faire des simulations de collisions et d'explosions dans l'espace pour voir combien de débris vont être générés et comment ils vont évoluer autour de la Terre.
Et vous, vous aimeriez réussir à mettre au point un logiciel capable d'aider les pays à éliminer leurs débris. Alors, quel type de logiciel ?
C'est un logiciel qui sait prédire avec exactitude si jamais il y a une collision dans l'espace. Et bien pour les satellites qui sont au voisinage, être en mesure de dire aux propriétaires, voilà, les débris vont évoluer de telle manière et le risque que votre objet soit impacté est de tel pourcentage.
Alors vous dites que vous êtes une femme de ménage dans l'espace. Comment vous est venue cette idée ?
On va dire qu'au début c'était une blague. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, j'aime pas faire de ménage dans l'espace. Là, c'est vraiment gardien de l'espace, c'est pas assez, parce qu'on se rend compte que on n'arrive pas encore à faire porter notre voix, à dire qu'il faut préserver l'environnement et qu'il faut mettre en place plusieurs politiques de prévention, de réduction des débris spatiaux. Donc, avec le temps, je me rends compte que c'est encore plus complexe que ce que je croyais, le problème des débris spatiaux, avec la dimension du droit spatial qui s'applique dedans.
C'est-à-dire que déjà, on a du mal à préserver l'environnement terrestre. Alors, l'environnement spatial, évidemment, c'est compliqué. Alors, on vous connaît depuis peu pour vos travaux. Vous devenez médiatique grâce à cette exposition Space Girls, Space Women, l'espace à travers le regard des femmes, qui est jusqu'au 1er novembre au Musée des Arts et Métiers à Paris. Mais ce que l'on sait moins, c'est que vos parents sont maliens et vous avez découvert le Mali, vous seulement, il y a 6 ans. Et quand vous y êtes allé, vous avez décidé de monter un projet pour mieux gérer la faible quantité de ressources en eau, notamment dans le domaine de l'agriculture. Alors, il s'agit de quoi exactement ?
En fait, ce sont des capteurs qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et ces capteurs envoient des informations aux propriétaires des champs, en leur disant, voilà, votre sol est humide ou pas humide. Et l'information la plus importante, c'est votre sol a besoin d'eau et c'est telle quantité d'eau dont il a besoin. En fait, l'agriculture, ça consomme au niveau mondial 70% des ressources en eau. Et le problème, c'est que la moitié est gaspillée, parce que les gens, lorsqu'ils arrosent leurs champs en général, ils ont des bassines ou autres objets qui ne permettent pas d'arroser de manière optimale et juste leurs champs.
Donc, quelle solution vous proposez ? Au-delà du fait d'avoir des capteurs qui disent quand il y a besoin d'eau, ce qui est quand même souvent le cas dans les zones arides, quelle solution pour arroser de façon efficace ?
Le capteur est connecté également à un système d'irrigation, en fait, qui se met en place également. Donc, système d'irrigation qui reçoit l'information, voilà, le sol est sec, il faut l'arroser en telle quantité. Et là, le système d'irrigation se met également en place.
Et là, vous êtes en phase de test actuellement, où exactement, au Mali ?
Alors là, c'est à Bamako, donc avec une coopérative de femmes maliennes. Et là, en fait, on est juste en train d'acheminer le matériel pour qu'elles puissent commencer à utiliser les capteurs, etc. Parce qu'on a besoin d'ordinateurs et plein de petites choses pour qu'elles puissent travailler de la meilleure manière.
Mais du coup, c'est une technologie extrêmement coûteuse, non ?
C'est coûteux et justement, en fait, dans le cadre de la création d'entreprise, on essaie de chercher un moyen, entre guillemets, de gagner de l'argent sans asphyxier les utilisateurs. Parce qu'on sait très bien qu'ils n'auraient pas les moyens, en temps normal, d'utiliser ce type de technologie. Donc c'est vraiment pour ça qu'on fait une phase pilote, pour voir comment, avec les rentrées d'argent, on pourrait impacter le coût de ces capteurs.
Bon, bah écoutez, on va vous suivre de près, vous nous tiendrez au courant. Merci Fatoumata Kébé.
Merci à vous.
François Meurice, c'est vrai que c'est extrêmement important quand même tous ces enjeux d'eau. Il y a beaucoup de recherches en la matière, beaucoup d'initiatives.
Oui, bien sûr, sur l'eau évidemment, et puis sur comment ne pas gâcher l'eau effectivement dans l'agriculture, que ça soit en Afrique, au Mali, mais évidemment partout en France aussi. On a aujourd'hui une manifestation des agriculteurs en France. La question de l'eau est évidemment centrale.
Alors, on pourra lire tout ça dans le magazine Terra Eco daté du mois de septembre et sur internet www.terraeco.net. Et juste avant de nous quitter, François, vous vouliez nous conseiller un livre.
Oui, une fois n'est pas coutume, nous avons des chroniques culturelles et livres tous les mois dans Terra Eco, mais ce mois-ci je tenais à faire un petit zoom sur le livre qui s'appelle Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, qui est signé par Mona Chollet, qui est journaliste et essayiste. Et c'est un petit livre qui démontre plein d'idées reçues contre les casaniers, contre les gens qui aiment leur foyer. Et en fait, à travers le logement, l'architecture, les sentiments qu'on a vis-à-vis de son canapé, de sa cuisine, même aussi du ménage, des rapports de genre. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce petit livre de Mona Chollet. Petit, en fait, il n'est pas si petit que ça, mais c'est vraiment très très intéressant. C'est un essai remarquable.
Voilà, donc c'est peut-être votre statut aussi de jeune papa qui
sans
vous
doute
tourne vers votre cocon, votre nid. Merci
doute,
en tout cas, François Meurice, d'être passé dans ses pas du vent. Merci à l'autre François derrière la vitre, François Porcheron, pour la réalisation et la mise en onde de cette émission, et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec Pascal Canfin, ancien ministre du Développement, conseiller principal sur le climat du World Resources Institute et co-auteur de Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Nous vous ferons un cours, la COP21 pour les nuls en quelque sorte, pour que les enjeux de ce rendez-vous dont tout le monde parle ne vous échappent plus, et nous verrons avec Pascal Canfin si au-delà des négociations officielles, le monde est vraiment prêt à s'engager vers une économie sans carbone. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.